Movimento. Jeanne-Martine Vacher. Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres, d'être 100 fois plus ombre que l'ombre, d'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée. Quelques vers de Robert Desnos pour ce dernier poème, c'est le titre, mis en musique dans l'œuvre ultime d'Henri Dutilleux, Le temps, l'horloge. Cette ombre pourrait être celle jetée sur sa vie par sa mort le 22 mai dernier. L'ombre encore est celle de la tristesse qui a pris possession du cœur nombreux de ceux qu'il aimait. Et puis la vie ensoleillée, c'est celle, nous l'espérons, promise à son œuvre qui ne nous quittera pas davantage que son souvenir. Alors aujourd'hui, dans Movimento, nous laisserons l'ombre derrière nous pour évoquer Henri Dutilleux, l'homme et son œuvre, en compagnie de deux compositeurs, Marc-André Dalbavy et Patrick Burgan, une interprète, la violoncelliste Sonia Widerathurston, et un musicologue, Maxime Joss.
C'est la pointe extrême et exacte du confluent de la Loire, qui est là-bas, et de la Vienne. Nous sommes à la pointe même de ce confluent. Alors c'est très attachant en soi. J'en suis venu au point qu'il fallait changer la place de mon bureau. Si j'avais cette table avec cette table de graveur, vous voyez, en face, ben alors à ce moment-là, je serais tout le temps... Je pourrais plus me concentrer. Vous voyez, j'aime les toits là. J'aime ces toits. Ça n'est jamais rectiligne. Ça n'est jamais dans l'axe. Ça n'est jamais... C'est toujours imprévu. Merveilleuse cette pierre qui change de couleur selon le temps, selon la place du soleil. Ah, c'est extraordinaire. Et puis, jamais dans un axe, c'est pas du tout rectiligne. C'est tout à fait asymétrique comme place. Et j'aime spécialement ce côté-là. Et ça me suffit. Alors là, je peux me concentrer. Et moi, j'ai eu le coup de foudre ici. Quand j'ai connu ça, il faut dire que ça rejoint beaucoup une part de mon passé, mais mon très lointain passé. C'est-à-dire que je suis né à Angers. Alors, vous voyez, depuis Angers, bon, il y a 60 kilomètres, j'ai toujours ressenti cette appartenance, double appartenance. Le Nord par mes parents et Angers par des oncles et tantes qui ont accueilli ma famille. Ma mère avec quelques enfants, et moi je suis né en 1916, au moment où mon père était à Verdun.
La voix d'Henri Dutilleux, il était là face à ces paysages qui le marquaient. C'est extrait d'un très beau film de Vincent Bataillon où il filme Dutilleux, donc en ces terres qu'il aimait, avec le quatuor Rosamonde en train de travailler son quatuor Ainsi la nuit, qui est une œuvre très complexe. Et c'est un film passionnant parce qu'il nous permet véritablement de comprendre et l'œuvre et la difficulté du quatuor et cet homme aussi. Alors pour parler de lui, Maxime Josse, tout de suite peut-être un mot sur cette musique Mystère de l'instant, qui est déjà un titre tout à fait proche de Dutilleux.
Oui, tout à fait évocateur.
C'était Paul Zahrer, pour qui il va composer d'ailleurs un hommage, et c'était le Collegium Musicum, c'était un disque Erato. Cette musique, elle nous racontait ce paysage que lui-même nous décrivait.
Tout à fait. Donc après un extrait d'Ainsi la nuit, le quatuor à cordes, on a entendu ces cordes divisées de Mystère de l'instant, qui est cette œuvre donc composée et créée en 1989 pour Paul Zahrer, le célèbre mécène et chef d'orchestre qui nous a quittés en 2006. Et c'est vrai que là, on voit véritablement hein, ce confluent entre la Loire et la Vienne et cette résidence secondaire qui était la sienne et qui donnait sur ce fabuleux paysage et ces oiseaux dans la nuit vers 11h du soir. Hein. Il disait justement... Dans le plus grand des silences, mais un silence peuplé des sons imperceptibles de la nature, il y eut soudain comme un étrange appel. Un mélange de sons presque inquiétants se répercutant en vagues successives de plus en plus proches. Voilà la poétique de Mystère dans l'instant et puis ces 10 instantanés qui évoquent bien sûr l'héritage de Bussiste.
Alors, Maxime Josse, vous êtes musicologue, je le disais, vous enseignez l'histoire de la musique et l'analyse au Conservatoire à rayonnement régional de Lille. Vous avez fait votre thèse autour de l'œuvre de Dutilleux, La perception du temps musical, vous publiez l'Armatan. Alors, pourquoi vous ? Il y a plein de musicologues qui ont écrit sur Dutilleux, brillamment également, mais vous, peut-être parce que votre présence nous dit déjà beaucoup de choses de cet homme, parce que c'est une très très longue histoire, vous êtes un homme tout à fait jeune, mais vous l'avez connu à 14 ans.
Oui, tout à fait. Alors, je voulais tout d'abord dire que j'ai été très ému quand j'ai appris le décès d'Henri Dutilleux et que je souhaiterais lui rendre un hommage particulier aujourd'hui. Et ce fut une rencontre merveilleuse. J'avais, oui, tout à fait 14 ans, c'était en 1990. Et en fait, j'abordais à l'époque au Conservatoire de Toulouse l'œuvre d'Henri Dutilleux avec Patrick Burgan, compositeur donc, qui sera avec nous par téléphone aujourd'hui. Et à l'époque, Patrick Burgan enseignait alors l'histoire de la musique. Et nous nous étions rendus à une répétition générale publique de L'Arbre des Songes. Voilà, c'est une œuvre qui avait été créée 5 ans auparavant.
Concerto pour violon, on en aura un extrait tout à l'heure.
Voilà, le concerto pour violon qui avait été créé 5 ans auparavant, en 85 à Paris. Et là, c'était donc une répétition générale publique à Toulouse par Pierre Amoyal au violon et Michel Plasson à la baguette. Alors, c'était un moment extrêmement émouvant et j'ai eu l'honneur de le rencontrer à l'entracte et le lendemain de m'entretenir avec lui pendant près d'une heure.
C'est-à-dire que cet homme était capable d'être disponible et pour un jeune homme qu'il ne connaissait pas du tout et qui avait une vocation de musicologue. Hein, ça paraît bizarre peut-être à certaines personnes de penser qu'il y a des musicologues qui ont des vocations, mais oui. Et ça a beaucoup compté dans votre parcours, ça.
Ah, tout à fait. C'était un homme d'une générosité extrême, d'une très grande humanité, et qui pouvait comme ça se rendre absolument disponible, et qui m'a proposé quand même que je l'appelle, alors qu'il était à l'hôtel à Toulouse. Et moi, je pensais qu'on parlerait 2 minutes, et que je lui poserais 2-3 questions, qui sont celles d'un adolescent presque naïf, et qu'il a pris le temps de me répondre. Et ensuite, donc, c'est vrai qu'on a échangé des lettres pendant des années, et surtout après je suis monté à Paris et lui ai annoncé que je m'apprêtais à prolonger bien sûr ces échanges sous forme de travaux universitaires, mémoire de maîtrise, puis de thèse, et puis bien sûr après on s'est rencontrés maintes fois chez lui, donc bien sûr à Paris, rue Saint-Louis en Lille, mais également donc à Caen de Saint-Martin.
Alors si on essaie de savoir un petit peu ce qui vous reliait à lui, il y a une chose importante que vous me disiez, je crois que votre père est peintre, artiste peintre, et qu'il était très 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 marqué par la peinture, Henri Dutilleux.
Oui, tout à fait, oui, puisqu'il a été très proche de certains peintres. Et il avait une grande admiration, par exemple, pour la grande œuvre de Zaouki. Et puis, il a, bien sûr, dans le cadre de son ballet Le Loup pour Roland Petit, qui avait été donné au Théâtre de l'Empire en 1953, il avait été, bien sûr, amené à travailler avec Carzou, qui signait les décors à ce moment-là, qui avait été, donc, l'année d'avant, repéré comme décorateur pour une reprise des Indes Galantes de Rameau à l'Opéra de Paris. Et puis, il a croisé des individualités telles Maurice Boitel. Et puis, bien sûr, c'est en lui, puisque son arrière-grand-père, son ascendance, était donc proche de. Donc Constant Dutilleux était donc d'une certaine manière un peintre qui est un peu le maillon entre le romantisme et donc l'école de Barbizon, en fait, était proche de Corot et de Delacroix. Constant Dutilleux, justement, des musées du Nord-Pas-de-Calais possèdent des œuvres de, et maintenant aussi, bien sûr, le Louvre et d'autres musées parisiens, bien sûr, possèdent des gravures et des peintures de Constant Dutilleux.
Et c'est quelque chose dont vous avez beaucoup parlé avec lui ?
Oui, énormément, oui. Oui, on a beaucoup échangé. J'ai même eu la joie de lui offrir, quand je suis passé un jour à son studio rue Saint-Louis-en-Lille, un livre que j'avais choisi sur Rembrandt. Et donc, on a évoqué, mm-hmm. bien sûr, la figure de Rembrandt ensemble. Et c'est quelqu'un qui...
Il s'est inspiré de Van Gogh, lui, entre autres.
Alors, tout à fait. Voilà, Vincent Van Gogh, il a énormément marqué. Mais il était aussi très admiratif de l'œuvre de Gauguin, qu'il avait fasciné quand il l'avait vu au moment où il concevait la deuxième symphonie dédiée à Munch, hein, dans les années 50. Mais bien sûr, Van Gogh, qui va habiter son univers musical pendant des décennies, qui plus est, qui est bien sûr, Van Gogh, qui est central pour l'imaginaire de Timbre, Espace, Mouvement, cette œuvre d'orchestre qui a été créée en 1978 par l'orchestre de Washington, dirigé par Rostropovitch à l'époque, même s'il y a un interlude qu'il a ajouté au début des années 90. Et puis aussi, bien sûr, on retrouve Van Gogh au travers, donc, là, de choix de lettres entre Vincent Van Gogh et son frère Théo, choisi donc et mis en musique pour soprano, dans le cadre d'une œuvre tout à fait passionnante pour soprano orchestre et correspondance, créée à Berlin en 2003 et qui a été donc, bien sûr, il y a quelques mois, donc enregistrée par Esa-Pekka Salonen et qui est donc sortie tout récemment.
Alors Maxime Josse, on va retourner vers les années 1951, hein, c'est le moment où il arrive sa première symphonie et on va voir qu'on est dans des mondes musicaux qui vont se transformer après, mais c'est très intéressant de l'écouter en premier. Donc Henri Dutilleux, première symphonie. Le tout début de la première symphonie d'Henri Dutilleux, la Passacaille. C'est ici Daniel Barenboim qui dirige l'Orchestre de Paris et c'est un disque Erato. Une œuvre, Maxime Jauge, je le disais, de 1951. Alors, je voudrais que vous nous fassiez un petit portrait de la carrière de compositeur d'Henri Dutilleux, qui est une œuvre à la fois très dense, mais pas très, avec pas énormément d'opus, en fait. Il était très sélectif. Peut-être son histoire au départ de formation.
Oui, en fait, on peut dire que sa carrière commence véritablement à la fin de l'entre-deux-guerres, puisqu'il obtient le Grand Prix de Rome en 1938. Puis après, il est en troupe de la Deuxième Guerre mondiale, où il va composer donc des sonates, sonatines, des mélodies. Et c'est vrai que le premier grand chef-d'œuvre d'orchestre, c'est cette première symphonie créée par Roger Desormières en 1951, et qui est tout à fait intéressante aussi par les rapports qu'elle instaure par rapport aux aînés. C'est vrai que, bon, par rapport à l'époque, ce n'est pas une œuvre nécessairement ultra avant-gardiste. Ouais. On sent bien des parentés avec Honegger et puis bien sûr l'apport stravinskien, l'apport de Debussy et Ravel. C'est vrai que cette Passacaille qui ouvre en même temps l'œuvre, un premier mouvement en Passacaille, c'est tout à fait intéressant. Et puis il y a la présence d'un scherzo qui doit beaucoup à Berlioz et puis un troisième mouvement qui est tout à fait fascinant à l'intermezzo et puis un final à variation. Et donc, c'est vrai que l'œuvre d'Henri Dutilleux, c'est avant toute chose une œuvre d'orchestre, puisque c'était un brillant orchestrateur, avec la deuxième symphonie pour un double effectif, puis les métaboles.
Et même les interprètes de Rosamonde dans ce DVD avec lequel nous avons écouté un extrait tout à l'heure, dans ce film sur un son quatuor, disent qu'ils traitent le quatuor comme un orchestre.
Oui, puis c'est sûr que c'est son unique quatuor, mais c'est un chef-d'œuvre à l'instar de Fauré, de Debussy ou Ravel.
Alors vous l'avez dit, les influences, on a déjà entendu. Il a beaucoup écouté Stravinsky, Dindy, mais aussi des musiques beaucoup plus bien avant, les polyphonies de la Renaissance aussi, importantes.
Oui, qui l'ont toujours intéressé, ces polyphonies flamandes, franco-flamandes de la Renaissance, mais parce qu'il a donc vécu son adolescence à Douai, et donc le Nord, et donc bien sûr la proximité avec la Belgique. Et tout ce répertoire fascinant de la polyphonie de l'âge d'or de la fin du 15e et du 16e siècle.
Vous, quand vous l'avez entendu, parce que je disais que c'est à 14 ans que vous avez eu le choc de cette œuvre. Vous avez le souvenir de cette première impression?
Ah oui, tout à fait. Ben justement, la première symphonie, mais également la sonate pour hautbois et piano. Et puis, un petit peu plus tard, je découvre Ainsi la nuit, justement, que je trouve une œuvre fascinante, plus complexe, et en même temps, c'est un de ses chefs-d'œuvre, hein, qui a été bissé à la première en janvier 1977, qui avait été créé par le Quatuor Parena, même si l'œuvre était dédiée au Quatuor Juilliard, qui créera donc l'œuvre aux États-Unis, à Washington, à la Bibliothèque du Congrès en 1978. Hein. Ça, c'est un jalon.
Comment elle est reçue, son œuvre, dans ces années-là? Comment va évoluer la perception de l'œuvre?
À partir de la création de Métabole en 1965, de toute façon, c'est chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre, Tout un monde lointain pour Rostropovitch, puis ensuite le Quatuor, puis Timbre, Espace, Mouvement, etc. Et là, les œuvres ont toujours un accueil extrêmement chaleureux, puisqu'Ainsi la nuit est bissée et qu'il y aura d'autres œuvres plus tard qui seront bissées à la première.
C'est rare quand même qu'un Quatuor soit bissé. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu, parce qu'il aimait pas tellement, je crois, vous allez me dire si je me trompe, Maxime Jauge, qu'on le mette dans une grande filiation, musique française, sensibilité française. En même temps, il y a quand même, vous parliez de Debussy, hein, c'est un des premiers noms que vous avez prononcé, on ne peut pas ne pas l'entendre tout de même.
Tout à fait, il admirait le quatuor de Debussy, qu'il analysait souvent à ses élèves quand il enseignait à l'École normale de musique à Paris. Mais bien sûr, il y a le vin de l'étranger dont il parle. Et c'est une expression d'André Gide, dans le grand journal d'André Gide. Et justement, c'est aussi la découverte, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, de Bartok, qu'il découvre par l'intermédiaire de Mihalovici et l'école de Vienne. Et même s'il n'est pas un compositeur strictement sériel, l'apport de cristal webernien, ou précisément le lyrisme berguien et les œuvres de Schoenberg l'ont tout à fait intéressé.
Mais c'est un homme qui ne s'est rien interdit.
Il ne s'est rien interdit, à l'écoute de tous les répertoires.
Ce qui, dans les années 50, 60, 70, bon 80, ça commençait à se décontracter un petit peu, mais dans les années précédentes, c'était extrêmement crispé par rapport à certaines esthétiques.
Tout à fait, il était au-delà des écoles.
Alors, on va écouter justement l'andantino du quatuor de Debussy. Et Comment vous compareriez les harmonies de Bussiste et puis celles de Dutilleux? Parce que lui, il jouait beaucoup au piano, hein, il travaillait beaucoup sur le piano.
Oui, Henri Dutilleux composait beaucoup au piano et je l'ai entendu justement réduire certaines de ses partitions sur le piano droit de son appartement ou sur le piano à queue de son studio attenant à l'appartement rue Saint-Louis-en-Lille. Et précisément, il aimait beaucoup réduire ce quatuor de Debussy. Et bon, ces harmonies modales de Claude Debussy, là, c'est 1893, hein, c'est mm-hmm. une des premières œuvres clés de Debussy à quelques mois du prélude d'après une faune. Et là, c'est la modalité. Et justement, il s'est beaucoup nourri de cette polymodalité. Hein. Il a beaucoup écouté Fauré, Debussy et Ravel. Et on sent bien cette filiation du point de vue du langage harmonique. Hein,
voilà. Alors, c'est un homme aussi beaucoup du son. Hein, c'est-à-dire qui dans un premier temps ne cherche pas à trouver des significations, n'a pas nécessairement envie d'en projeter sur la musique. Et en même temps, et c'est très frappant dans le film Ainsi la nuit, là où on le voit avec le quatuor Rosamonde, il y a quand même toute une atmosphère. On les voit, le quatuor lui joue ses tendentinos, ils sont au bord de la Loire, il y a une espèce d'apaisement extraordinaire, il y a cette musique qui monte. Donc il y a ce mélange en même temps d'atmosphère très particulière qui vient des harmonies et qu'on retrouve dans sa musique, non, Maxime Jouz?
Voilà, qui vient des harmonies et de la forme. Et justement, s'il y a une filiation entre Claude Debussy et Henri Dutilleux, c'est le mystère, vraiment, qui est un mot omniprésent chez Debussy.
On l'a vu d'ailleurs avec le premier titre, hein, Mystère de l'instant.
Voilà, l'instant, le temps, le mystère et peut-être l'apaisement. Justement, je crois que c'est une musique profondément douce. Et c'est vrai que dans ce mouvement modéré du quatuor de Debussy, il y a une atmosphère tout à fait comparable.
Mais vous dites le mot doux, ce qui est assez troublant, je trouve, c'est que c'est une musique aussi où peut y avoir des explosions. Or, elles ne sont jamais d'une violence agressive. Et ça, c'est très étonnant parce que c'est un orchestre qui peut être d'une puissance phénoménale.
Oui, tout à fait. Ça, c'est parfois la démesure de Berlioz aussi qui l'a fasciné. Et donc, il aimait bien. Bien sûr, il y a certains mouvements qui sont intitulés flamboyants, vagues de lumière, embrasement, et c'est vrai qu'il y a tout à la fois l'intériorité, il y a l'introspection, et puis c'est vrai qu'il y a des... Et ce qu'il appelait souvent ces bouffées d'orchestre, j'aimais énormément quand il employait cette expression avec ces espèces de gestes musicaux, d'expansion et de repli, et il appelait parfois ça à l'orchestre des bouffées d'orchestre.
Et ça, je trouve que ça renvoie un peu à l'homme, parce qu'il y a une chose qui me frappait beaucoup, à un moment il dit, il est très très âgé, hein, il est mort à 97 ans, là il devait avoir plus de 90, et il dit qu'il faut toujours essayer de garder sa folie, et sa folie, il faut toujours aller la rechercher dans sa jeunesse. Et c'est cet homme petit qui semble si fragile, qui semble d'une extrême douceur, comme ça, très contenu, qui en même temps, tout d'un coup, vous sent une parole presque de rocker.
Ah oui, il cherchait la folie. Mais c'était un grand épicurien, un grand hédoniste, puisqu'il il adorait manger des huîtres, par exemple. Il adorait tout cela. Et précisément, la folie, je crois qu'il la tient aussi de la démesure berliozienne et de la gageure, du risque dont parlait Ravel. Il aimait beaucoup citer ces mots de Ravel où il faut prendre des risques dans la musique.
Alors, on va l'écouter justement parler de la responsabilité du compositeur Henri Dutilleux. Vous voyez, on est totalement dans le suivi parce que ça fait vraiment partie aussi d'un des fondements de cet homme.
Je crois que je suis, comme tous les compositeurs, quelqu'un qui a une grande responsabilité. Responsabilité par rapport à moi-même, bien entendu, par rapport à mon travail, mes recherches, mes responsabilités par rapport au public que je veux atteindre, par rapport à la société, en quelque sorte, étant donné qu'un créateur est quelqu'un qui projette ce qu'il a longtemps pensé. C'est en somme... Qu'est-ce que c'est que ce travail? Il correspond à une somme de rêves, de ce qu'on pourrait appeler des fantasmes, ce qu'on pourrait appeler son univers personnel, pour éviter d'autres clichés peut-être, comme celui de message, projeter son message. C'est une chose qui m'a toujours paru un petit peu solennelle. Alors, pour y parvenir, évidemment, il y a tout un travail mental qui est extrêmement rigoureux, qui est extrêmement sérieux et fatigant, astreignant. Il s'agit toujours, et je crois que beaucoup de compositeurs sont conscients de cela, de provoquer ou plutôt de réaliser le meilleur équilibre possible entre l'instinct et le contrôle.
Henri Dutilleux, dans Musique de notre temps, il était en entretien avec Georges Léon. Et c'était en 1965, et c'est étonnant d'entendre tout d'un coup cette voix de Dutilleux très jeune. Enfin, il avait 49 ans, donc quand même, oui, très jeune, on va dire. Alors, Marc-André Dalbavy, vous êtes compositeur, vous êtes à l'autre bout du fil avec nous.
Bonjour.
Oui, bonjour. Merci d'être là pour témoigner aussi de l'importance pour vous de cette œuvre et puis de cet homme. Vous n'avez pas été formé par lui, hein. Vous avez été formé par Betsy Jolas, Claude Bally, Marius Constante. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a été très important pour vous, Marc-André.
Oui, j'ai découvert sa musique finalement assez jeune et surtout sa musique d'orchestre qui m'a tout de suite passionné. Et la première rencontre que j'ai eue avec lui, c'était lors de mon concours de composition au conservatoire. Il était président du jury et ça a été une rencontre formidable. Il m'a énormément encouragé. Et depuis lors, on a toujours eu des liens de proche en proche qui se sont entretenus pendant toutes ces années jusqu'à encore très récemment.
C'est d'ailleurs une chose qui me semble très frappante parce que j'étais frappée au moment même de sa mort et puis ensuite en parlant avec beaucoup de gens. Non seulement il crée des liens, ça c'est très bien, mais il les suivait à travers le temps, ce qui est beaucoup plus rare.
Oui, il était très fidèle. Quand je me suis retrouvé compositeur en résidence de l'Orchestre de Paris, nos liens se sont beaucoup rapprochés parce qu'il venait au concert et il n'avait raté aucun concert de l'Orchestre de Paris me concernant. Il était là toujours, dès qu'il y avait une création, il venait, puis on déjeunait ensemble. On a vu aussi beaucoup de rapports au moment où il y avait eu le problème de déménagement de l'Orchestre de Paris de Pleyel à Mogador. Il était très inquiet, il s'intéressait vraiment à tous ces problèmes-là. Il s'intéressait à comment l'orchestre allait réagir, est-ce que c'était bien cette nouvelle salle, est-ce qu'on allait trouver une nouvelle salle pour cet orchestre. Enfin,
c'est-à-dire c'est très lié à ce qu'on vient de... Voilà, c'est ce qu'on vient d'entendre de ce qu'il disait, cette sensation de sa responsabilité aussi. Exactement. Dans la cité d'une certaine façon. En tant que compositeur.
Oui, c'est vrai que nos rapports étaient d'abord des rapports musicaux, mais finalement, à certains moments, quand les choses le demandaient, il était prêt à s'engager et il était assez furieux de ce qui se passait avec le problème des salles de concert et toutes les histoires qui ont suivi la fermeture de Pleyel.
Alors, Marc-André Dalbavy, vous êtes aujourd'hui un compositeur qui a trouvé un grand espace en France et international. Vous étiez votre œuvre Color au sujet du Bach, à côté de Bach et Pink Floyd en 2012. Donc tout ça pour dire que, vous êtes l'un de nos compositeurs reconnus. Mais quand vous avez rencontré Dutilleux, qu'il était président de votre jury, que vous étiez jeune compositeur encore, vraiment débutant, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a pu imprimer votre propre écriture dans ce qu'il faisait ou dans l'esprit de ce qu'il faisait?
Oui, il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, le premier contact a été formidable. Quand j'ai entendu les deux mots qui m'ont frappé, que j'ai ressenti quand j'ai rencontré, c'est l'humanité, la générosité, c'était vraiment ça. Il m'a troublé dans son rapport. J'étais un tout jeune compositeur. Lui était déjà un compositeur très important. J'étais très, évidemment, très timide. Et sa générosité, il vous mettait tout de suite à l'aise. Il avait une façon de parler avec vous très simple.
Et dans sa musique, alors, dans sa musique? Parce que ma question était plus sur la musique elle-même.
Sa musique m'a beaucoup touché. D'abord, on peut dire que moi, j'avais suivi évidemment toutes ses premières pièces, soit la première symphonie, le Loup. Je connaissais ça très bien. J'avais étudié la deuxième symphonie. L'arrivée des métaboles, qui avait été quand même un événement dans son parcours.
1964.
Milieu 60, c'est ça ?
64.
Ouais. Et ensuite, l'arrivée du concerto pour violoncelle, le concerto pour violon, le mystère de l'instant. On peut dire que ce qui m'avait frappé, c'est, à part cette maîtrise de l'orchestration qui est assez étonnante, c'est ces espèces de longues mélodies avec des motifs qui se répètent tout le temps, une espèce de sorte de charge électrique presque, avec des notes pivots, des choses absolument étonnantes. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est cette espèce de révolution tranquille, c'est-à-dire lorsqu'on parle de la première symphonie, qu'on arrive à sa dernière musique, il y a une sorte de transformation où progressivement, il assimile toutes les expérimentations de son époque et il ne les plaque pas, il ne les met pas dans sa musique par mode, mais il y a une sorte de digestion. Et ça ressort au fur et à mesure, et ça ressort avec une continuité incroyable. On a écouté tout à l'heure la première symphonie. Entre la première symphonie et le concerto pour violon et celui de violoncelle, on sent le même style. Il y a une continuité très forte alors que les matériaux, les harmonies évoluent, l'orchestration devient de plus en plus étonnante avec des recherches de timbres tout à fait inouïes, avec des combinaisons orchestrales inédites, avec même des influences presque électroniques à certains moments dans le concerto pour violon, des choses comme ça. Mais on reconnaît tout de suite cette espèce de style tout à fait incroyable avec ses compressions, ses focalisations sur certains moments de tension, avec cette espèce de musique continue qui constamment augmente sa tension. Enfin, ça, c'est vraiment tout à fait lui, cette espèce de mélange entre un style extrêmement fort et en même temps une curiosité.
Une ouverture.
Une ouverture très large.
Alors Marc-André Dalbavy, on va écouter un extrait de L'Arbre des Songes, donc ce concerto pour violon, interprété par Pierre Amolial. Vous aimez particulièrement cette œuvre, je crois.
Oui, j'aime beaucoup cette œuvre. Je l'avais écoutée d'ailleurs à la création et je l'ai réentendue plus tard. Et lorsque je l'ai réentendue, j'avais vraiment... ça a été un tel choc pour moi que j'ai écrit mon concerto pour violon à la suite. Donc ça a déclenché pour moi l'envie d'écrire pour cette forme.
Bon, Marc-André, on va écouter justement un fragment de cet Arbre des Songes. Merci à vous.
Thank you.
toute la luxuriance de l'orchestre d'Henri Dutilleux avec ce tout début de son concerto pour violon et orchestre, L'Arbre des Songes, Pierre Amoyal au violon, l'Orchestre National de France dirigé par Charles Dutoit. Et ce tout début s'appelle Librement. Maxime Josse, je trouve que ça résume assez bien ce qu'on essaie de dire de la liberté d'écriture de ce compositeur. Alors, il y a ce rapport au temps, on l'a vu, c'est-à-dire au temps de l'histoire de la musique, avec lequel il s'autorise tout, y compris la tonalité s'il a envie, la modalité s'il a envie, pas nécessairement les règles habituelles obligées au moment où il écrit. Et puis, il y a un autre rapport au temps qui est essentiel, qui est le rapport à la mémoire. On peut dire aussi que ça peut venir peut-être de cette, il le disait tout à l'heure, de cette responsabilité qu'il avait aussi par rapport à l'auditeur. C'est-à-dire qu'il écrivait aussi pour d'autres et que dans cette structure, la mémoire et la mémoire de l'auditeur étaient très importantes.
Oui, c'est un concept central dans son œuvre qui a pas mal évolué en fait. Cette définition du temps, cette définition de la mémoire, du rôle de la mémoire dans l'œuvre musicale chez lui a évolué. En fait, on pourrait dire que ses premières œuvres, s'il y a une entité en fait omniprésente dans ses premières œuvres, c'est la question, la technique de la variation. En fait, ce changement perpétuel, et ça se sent particulièrement dans la sonate pour piano, mais également dans la première symphonie, le final de la première symphonie, le final de la deuxième symphonie, et avec un aboutissement absolument exceptionnel en matière de variation qui devient métamorphose dans les métaboles, puisque métabole veut dire métamorphose, ça vient du grec. Et après, le temps musical, c'est aussi la mémoire, c'est le temps tressé. Paul Ricoeur parlait du temps traversé. Et là, c'est vrai que c'est par exemple la lecture des romans de La Recherche de Proust qui a particulièrement influencé Henri Dutilleux. Et puis on avance. Et d'une certaine manière, le temps musical, ça peut être aussi le rapport au temps de l'histoire, les ombres du temps, ces années si douloureuses de la Deuxième Guerre mondiale, dans The Shadows of Time, les ombres du temps, qui est une œuvre d'orchestre avec trois voix d'enfants. De la fin des années 90. Et puis encore ce temps omniprésent dans le temps l'horloge créé.
Oui, la dernière œuvre.
Voilà, la dernière œuvre créée à Paris.
Mais c'est aussi peut-être, je parlais de l'auditeur parce que il l'a dit lui-même d'ailleurs, c'est cette volonté aussi de créer des repères sonores de façon à ce que l'auditeur. C'est un peu d'ailleurs comme dans les ragas indiens où on commence par une alape avec aussi la tonalité, la note centrale qu'on fait entendre pour que l'auditeur tout d'un coup puisse entrer en elle, si je puis prendre cette métaphore, et s'habiller. Et ensuite entendre la construction qui lui est proposée.
Oui, tout à fait. Donc il avait une manière de composer d'envisager donc notre rapport à l'écoute où justement ces sons pivots qui revenaient de manière litanique étaient là aussi pour structurer la mémoire. Et ça passait par des harmonies aussi qui étaient pivots, ce qu'il appelait parfois des cristallisations, des changements kaléidoscopiques et la forme était particulièrement tressée, à savoir que il n'hésitait pas de temps en temps à recourir à la répétition de certains motifs qui ponctuait de ci, de là, donc les pages de ses œuvres.
Là, on voit encore sa liberté, parce que vous employez le mot répétition, qui a été interdit et damné pendant de longues années. Voilà. Et aussi, j'aurais envie de dire un autre mot, qui est le mot mélodie, également, qui n'était pas très bien vu, et que lui, tresse, comme vous dites, par petites touches jusqu'à ce qu'elle arrive.
Voilà, ces petites touches successives unies par un lien mystérieux dont parle Debussy, qui plus est à propos de Moussorgski. Ça peut s'appliquer complètement à l'art d'Henri Dutilleux. Mais c'est surtout aussi l'idée que cette œuvre, qu'est celle d'Henri Dutilleux, c'est une œuvre de la transition, du passage. Il y a des philosophies qui sont les philosophies de l'être et les philosophies du passage. Mais l'art de la transition, ça passe par ces fameuses parenthèses insérées dans son quatuor entre les grandes parties ou l'interlude, les interludes par exemple, qui structurent l'art des songes.
Henri Dutilleux, le dernier poème extrait de sa dernière œuvre, Le Temps, l'horloge. Et là, nous entendions un extrait du moment même de la création. C'était le 7 mai 2009, création mondiale. Donc, René Fleming, dirigé par Seiji Ozawa et l'Orchestre national de France au Théâtre des Champs-Élysées. Maxime Joss, vous y étiez, je crois, bien sûr.
Oui, évidemment. Oui, tout à fait. Un moment inoubliable.
Alors, il y a quelqu'un qui est là aussi, avec nous, toujours par le fil, c'est Sonia Vider-Atherton, violoncelliste.
Allô ? Bonjour.
Oui, bonjour. Alors, avec vous, il fallait bien quand même qu'il y ait une interprète ou un interprète pour parler de cet univers d'Henri Dutilleux. Vous êtes liée à lui, au fond, par des affinités électives. Vous êtes une élève et vous avez été lauréate du concours Ostropovitch, qui est donc personnage très important aussi dans l'histoire de Dutilleux, puisqu'il a interprété Dutilleux, il a commandé Tout un monde lointain, cette œuvre fondamentale, hein, donc vous-même. Et vous avez travaillé avec Henri Dutilleux vous-même. Et alors, ce qui est intéressant, vous nous amenez encore un autre éclairage, Sonia Vider-Atherton, parce qu'un film a été fait par Chantal Akerman, où vous interprétiez donc ces trois strophes sur le nom de Zahar. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, pour justement sentir l'homme à travers vous, comment se passait ce tournage ?
Alors, le tournage s'est passé dans un lieu à Paris. Et il y avait une mise en scène, une légère mise en scène imaginée par Chantal Akerman, avec deux danseurs qui étaient dans le fond, derrière derrière une fenêtre, et qui esquissaient des gestes très légers de la vie quotidienne qui accompagnaient à certains moments la partie de violoncelle. Et on avait évidemment raconté tout ça à Henri Dutilleux, qui a dit « mais j'ai envie de venir voir ». Et donc, on a été le chercher et on pensait que pendant une heure ou deux heures, il serait là à regarder. Et en fait, ça l'a passionné et il est resté toute la journée. Et il avait un bonheur qui se lisait sur son visage.
Parce que c'était une expérience nouvelle. Là, c'est la curiosité de cet homme qui...
Alors, je pense que ça, c'est un mot, il en parle, cette curiosité. Une curiosité insatiable, mais en même temps... évidemment je pense à lui tellement, et d'ailleurs je me dis qu'il doit être en train d'écrire des lettres là où il est aux gens pour dire je suis désolée d'avoir dû partir avant de vous avoir dit ci ou d'avoir fait ça ou d'avoir avoir, et parce qu'il était dans cette délicatesse et cette recherche de l'équilibre dans tout ce qu'il faisait, mm-hmm. mais qui était un équilibre. J'avais la sensation qu'il le cherchait, mais par secousse, c'est-à-dire qu'un équilibre, c'est quelque chose qui aussi parfois vacille. Ça m'a beaucoup frappé quand Maxime Joss a parlé de la philosophie du passage, mm-hmm. parce que dans ce passage, il y a des moments où ça peut basculer. Mm-hmm. Et il y a, par exemple, il y a un souvenir que j'ai que j'oublierai jamais. C'est quand j'étais chez lui un jour et il s'est assis dans son fauteuil et il y avait à côté de lui une plante verte. Et il y a quelques branches de la plante qui sont venues un peu lui caresser le visage comme ça. Et ça le gênait. Et j'ai vu son visage se tendre. Et il a dit, c'est ridicule des plantes vertes comme ça. Alors je le regardais, je dis, oui, c'est comme si j'étais dans une forêt vierge. Enfin, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut être comme ça dans une forêt vierge ? Et alors j'ai dit, mais peut-être qu'on pourrait couper quelques branches. Et il a dit, oui, enfin, il faut réfléchir. Et dans ce moment-là, je trouve qu'il y a tellement de Dutilleux. C'est-à-dire que d'une chose tout à fait quotidienne, une petite branche qui dépasse, il mène à une chose où il y a la passion, l'équilibre, et quelque chose qui... Il a bâti une histoire en 3 minutes, mais où vraiment... Mm-hmm. Il y avait cette recherche de ça.
Alors Sonia Vider-Atherton, il y a aussi, vous avez été son interprète, donc vous avez travaillé avec lui, l'une de ses interprètes, mais en l'occurrence qui nous occupe c'est vous en cet instant. Oui. Et comment il était justement, qu'est-ce qu'il vous apportait ? Il avait une oreille, je crois, extrêmement précise par rapport à ce qu'il voulait, à ce qu'il entendait.
Ouais, quand je lui ai joué chez lui, parce que la première fois que j'ai joué les trois strophes, c'était dans un studio de la radio et il était là, et je pense que j'avais tellement le trac que j'étais tellement dans ce que j'allais faire que j'ai même pas réalisé quand Henri Dutilleux était assis là. Et voilà. Mais après, quand j'ai été chez lui, évidemment là on s'est arrêté et j'ai le souvenir qu'il y avait un intervalle dans la deuxième strophe d'une carte augmentée dont il voulait absolument que ce soit exactement la justesse de la carte augmentée, comme il l'entendait, comme une chose mais primordiale. Et moi, je me suis dit, j'avais joué la troisième strophe, j'ai pas bien articulé, ça, ce moment-là, il va certainement venir dessus. Pas du tout. Et je lui ai dit quelque chose, il a dit non, ça n'a aucune importance. Mais par contre, il est revenu 3 ou 4 fois sur ce moment de ce chant dans les graves de la deuxième strophe.
Merci à vous, Sonia Widerater-Ton. On va vous écouter justement. Alors là, on va écouter un extrait de la troisième strophe, de ces 3 strophes sur le nom de Zahreur d'Henri Dutilleux, interprétée par vous, Sonia Widerater-Ton. Merci.
Merci à vous.
Voilà, un extrait de cette troisième strophe sur le nom de Zahreur, interprétée par Sonia Widerater-Ton. Cet extrait d'un disque qui s'appelle Au commencement Monteverdi, où vous employez le mot tressé, Maxime Joss, où Sonia Widerater-Ton tresse Monteverdi avec des contemporains, avec du Sapin, Berriot et Dutilleux et Kurtag. Alors, compositeur, un autre compositeur est avec nous, Patrick Burgan, merci. Vous êtes là ?
Bonjour.
Oui, vous êtes là. Alors, vous êtes compositeur, vous êtes professeur associé à l'Université de Toulouse, vous enseignez l'écriture et l'improvisation. Et quand on ouvre votre site internet, Patrick Burgan, on se trouve face à un propos d'Henri Dutilleux. Et surtout, j'ai envie de dire, bon, c'est un propos très élogieux pour votre musique, mais surtout face à sa signature. Et on a parlé de cette envie de graphisme, d'écriture, d'esthétique. Mais cette écriture qu'on retrouvait d'ailleurs sur les partitions est absolument admirable. C'est presque de la qualité.
Oui, ben exactement. D'ailleurs, son écriture est à l'image de l'homme. On en a beaucoup parlé dans cette émission. Quelqu'un de minutieux qui s'attachait aux moindres détails, qui ne laissait rien au hasard et pourtant qui avait, je pense, une foi très grande dans le côté irrationnel et presque mystique du hasard et de l'improbabilité. Mais sa minutie qu'on retrouve dans sa musique, on la retrouve dans son écriture, bien sûr. Alors il m'avait gentiment écrit, c'était à destination pour un ouvrage qui devait paraître sur ma musique, il m'avait écrit cette phrase là qui devait figurer dans un préface.
Oui, qu'il a écrit encore, on voit vraiment que c'est un homme de l'écrit.
Absolument, ouais. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup de lettres, il écrivait beaucoup, donc beaucoup de monde a beaucoup de lettres de sa part, c'était un être extraordinaire pour ça, il était très fidèle, comme a dit Marc-André d'Albavie, ce qui fait que quand quelqu'un lui écrivait, je pense qu'il lui répondait systématiquement.
Pour vous, il a été très très fondamental dans votre destin de compositeur, il vous a beaucoup marqué.
Ah oui.
Avec Varèse.
Oui, c'est ça. Disons que j'ai eu un grand choc, vous savez, on se forme petit à petit à l'écoute des œuvres, et je crois que c'était lorsque c'était assez tard d'ailleurs, hein, c'était à l'âge de 23, 24 ans, je crois que j'ai eu vraiment un choc en entendant notamment Varèse d'une oreille beaucoup plus attentive et Dutilleux dans la foulée avec les métaboles notamment qui m'ont absolument transporté. Je crois que d'ailleurs non, la première œuvre que j'ai entendue de lui, c'est Timbre Espace Mouvement, et qui était un immense choc, et Métabole a été aussi un choc, enfin à tout point de vue, pour son écriture, la profondeur de sa pensée, la construction, et puis la magie de cette sonorité, quoi. Ouais.
Et vous, dans Timbre Espace Mouvement, il y a un mot fondamental, c'est espace. Et je lisais d'ailleurs, et vous dire à quel point il était obsédé par cette idée d'espace, espace dans la musique, mais même sur les partitions, là je parlais de la calligraphie, j'ai lu qu'il coupait certaines parties de la portée pour faire de l'espace sur la page, comme s'il fallait qu'il voie l'espace de la musique écrit aussi et représenté. Et on le sent quand on écoute sa musique.
Oui, tout à fait. Oui, bien sûr, du coup, la partition visuellement retrace un petit peu l'univers spatial que représente l'écoute, bien sûr. Oui.
Et il y a un mot aussi sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête avec vous, parce qu'on l'a pas, je ne crois pas qu'on l'ait prononcé dans cette émission encore, mais c'est le mot poésie, parce que pour vous, c'est quelque chose de très important par rapport à la musique de Dutilleux, Patrick Gauguin.
Oui, on a une passion commune dont on a beaucoup parlé, c'est Baudelaire. Une véritable fascination pour l'univers de Baudelaire, pour sa pensée, la force de sa poésie. Et donc, ça me semble essentiel. Disons que la musique de Dutilleux est de la poésie sonore. Et je crois que la musique doit être de la poésie sonore. C'est-à-dire qu'il y a toujours évidemment la technique qui sous-tend la construction pour arriver à matérialiser sa pensée dans un univers sonore, musical. Mais c'est toujours sous-tendu par... ce que Dutilleux d'ailleurs appelait dans un des passages que vous avez passé, le côté, l'univers personnel. Il disait qu'il n'avait horreur du mot message, bien sûr, parce que par message, bon, il y a un côté un peu sentencieux, on imagine toujours qu'on peut faire passer des idées. La musique est asémantique, donc elle ne fait pas passer des idées directement. Mais par contre, on est dans le monde intérieur, dans le monde de la poésie intérieure. Et donc cette force qui sous-tend le principe de création, à mon avis, et il partageait cette idée, c'est une force générale en fait. Ensuite, suivant la technique qu'on utilise, ça devient des mots, ça devient des couleurs, de la peinture, ça devient des sons. Ça ensuite, c'est simplement une question de transmutation sur la matière. Mais la force intérieure, c'est la force poétique propre.
Eh bien, Patrick Burgan, on a bien compris que vous aviez un élan là. Vous pourriez nous parler de ça très longtemps. Je vous propose qu'on écoute cette œuvre qui vous a tant marqué, Métabole. Je disais 64 à l'heure, non, c'est 65. Je le corrige pour que nous soyons très précis. Donc 65, Métabole, et c'est un extrait qui est dirigé par Myung-Hoon Chung, et c'est assez amusant parce que sur le même disque, il y a ce Métabole et il y a la Symphonie fantastique d'Hector Berlioz dont vous nous disiez qu'il a beaucoup impressionné Henri Dutilleux, Maxime Joss. Donc allez, on part pour cette Métabole.
Thank you.
Voilà, c'était donc ces métaboles dirigés par Myung-Woon Chung, l'orchestre de l'opéra Bastille. Maxime Josse, nous sommes à la fin de ce moment dans Movimento consacré à Henri Dutilleux qui vient de nous quitter, mais il ne nous a pas quittés vraiment puisque son œuvre est là. Alors on va dire à nos auditeurs qui auraient envie d'entrer dans cette œuvre ou de la retrouver, peut-être. Alors bon, votre livre, La perception du temps musical chez Henri Dutilleux, c'est un livre larmatant. Des DVD. On a commencé cette émission avec un extrait de Ainsi la nuit de Vincent Bataillon, qui est chez Opus Distributeur, qui est un très très beau film sur son quatuor, mais vraiment qui peut passionner tout le monde parce que a priori c'est austère, l'œuvre est difficile, et pourtant c'est fait de telle sorte, avec beaucoup de poésie en plus, qu'on comprend vraiment ce que c'est que l'écriture, on comprend vraiment ce que c'est que l'interprétation, puisqu'il les aide et on en voit toutes les difficultés, et tout ça est commenté avec des très très beaux moments de nature. On en a entendu un, entre autres. Un autre DVD dont vous me parliez, Maxime.
Oui, un très beau DVD, un film documentaire de Michel Vanzel qui a été très proche d'Henri Dutilleux dans les années 2000. Henri Dutilleux a porté de voix de 2004 ce DVD, et c'est un film documentaire particulièrement passionnant.
Alors, pour finir, je voudrais tout de même lui laisser à lui les derniers mots, Henri Dutilleux, et il a quelque chose à nous dire, à vous dire, c'est-à-dire comment faire pour s'approprier, pour aimer son œuvre. Eh bien, écoutez.
Pour juger une œuvre, il faut vraiment l'entendre plusieurs fois. Et c'est ce qui fait le charme de la musique. Mais c'est vrai même dans le domaine de la chanson. Il n'y a rien de plus beau qu'une très belle chanson. Ça peut être de Ferré, ça peut être de Trédès, ça peut être de Brel, ça peut être de Barbara, Sarah Vaughan. Et ça, c'est superbe. Mais ça vaut une très belle symphonie.
The sweetest sounds I'll ever hear are still inside my head. The kindest words I'll ever know are waiting to be said. The most entrancing sight of all is yet for me to see.
On se quitte avec cette voix de Sarah Vaughan que vient de nous offrir Henri Dutilleux. Elle chante ces sons les plus doux qui sont dans nos têtes et qui étaient dans la sienne. C'était Movimento, une émission proposée par Jeanne-Martine Vacher. Je vous rappelle que vous pouvez la réécouter, la télécharger sur la page Movimento du site de France Culture. Movimento, notre attachée de production est Sylvia Favre. Le mixage était aujourd'hui de Tristan Gartalan et la réalisation d'Olivier Guérin.